Club Anna Kofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine, présentée par David Charlet et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Club Anna Kofi. Je suis en compagnie pour présenter cette émission de David Charlet. Bonjour David.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Eh ben ça va super. Un programme à nouveau chargé, hein. Je vous rappelle le principe de l'émission. Tout d'abord, les actus de l'Anna Kofi. Alors c'est là aussi, on a un sacré pavé, création de commission SG, les travaux de commission Girardin, le Tour de France Digital, le CRM et le suivi des sites internet, entre autres. Et puis on verra ensuite l'actu métier avec la réforme du courtage, un petit coup d'AMF, le label relance, le crowdfunding et les effets Covid sur la profession. Club Anna Kofi, c'est parti.
Club Anna Kofi, l'actualité.
L'actualité, c'est l'actualité de l'Anna Kofi. On démarre, David, avec la création d'une commission ESG. Les trois lettres qu'il faut avoir en ce moment, en tout cas, tout le monde saute dessus. Pourquoi la création de cette commission ?
Ah bah parce qu'on avait depuis plusieurs années cette thématique qui montait et qu'on essayait de gérer avec l'équipe des élus et des salariés, j'allais dire au quotidien, mais ça ne suffisait plus. C'est-à-dire qu'on est maintenant au-delà d'un effet simple mode et j'allais dire patine sur quelques sujets. Donc on a voulu créer une commission dédiée avec des gens qui sont peut-être plus marqués ESG, ISR.
Alors attention, acronyme, on traduit pour tout le monde, ESG, environnemental, sociaux et de gouvernance, et pour les fonds notamment, l'ISR, investissement socialement responsable. C'est intéressant parce que vous disiez justement, c'est plus une patine, on sent que ça y est, on a dépassé la tendance, l'espèce de greenwashing qu'il y avait un petit peu, on sent que vraiment maintenant l'appétit des Français est là, les conseillers en proposent de plus en plus, et en plus quand ils proposent, c'est souvent accepté.
Oui, alors c'est souvent accepté, mais c'est aussi que c'est devenu, d'une certaine manière, ça s'est normalisé. Donc ça signifie qu'on a un peu partout cette thématique et on les a dans tous les travaux, consultations, Bruxelles, Paris, évidemment du coup beaucoup plus de fonds, de sociétés qui revendiquent ça, de sociétés dans lesquelles investissent les fonds. Donc c'est là qu'on pouvait, on a considéré qu'on pouvait plus du tout le traiter comme on le traitait avant. Et il fallait qu'on se structure. Donc cette commission a pris ça à bras-le-corps. Elle est en train de finir une sorte de point de départ, on ne va pas appeler ça un livre blanc, mais de synthèse de qui sont chacun des membres de la commission, ce sur quoi ils sont spécialisés, ce qu'ils ont fait là-dedans, et la liste de tout ce qu'on confie à cette commission. Comme ça, ce sera clair, on a un point de départ. Et puis les travaux qu'ils produiront pourront être intégrés là-dedans, ce qui, pour l'ensemble des autres élus de l'Anna Kofi qui participeront pas à cette commission, leur permettra de voir ce qui s'y passe et de voir ce qu'on construit en notre nom et aussi de pouvoir injecter des demandes. Donc voilà, on se structure vraiment parce qu'on avait un besoin de le faire qui était extrêmement prégnant depuis quelques mois et on n'allait pas tenir comme ça très longtemps sans avoir une vraie structure.
D'accord. Donc il y a une vraie commission qui est créée. Peut-être on aura un des témoins,
Vous aurez son président, son vice-président, sa vice-présidente d'ailleurs, qui pourront vous parler des sujets que chacun d'entre eux portera individuellement et des travaux qui seront menés à l'intérieur de façon plus globale.
Voilà, il faut se le dire, l'ESG n'est plus un gadget. Hein,
c'est plus un gadget.
Et c'est un must-have maintenant.
Oui, je crois que c'est exactement ça. Je pense que s'en passer dans une gamme devient très compliqué.
On parle également d'une autre commission, la commission Girardin, qui avance.
Oui, elle avance. Elle a donc mission pendant un an d'étudier ce marché de Girardin, qui est toujours un marché qui nécessite qu'on lui porte attention. Ça représente une fraction des incidents non neutres chez les CGP, en baisse sur plusieurs années, mais enfin qui reste un des points sur lesquels on se rend compte que les CGP peuvent avoir des difficultés. Donc elle a, comme ça, la première version de cette commission qui avait rendu ses travaux il y a quelques années, mission de sortir un guide de bonne pratique, une analyse du marché toute autre analyse des incidents qu'elle pourra avoir envie de faire. Elle est à peu près au milieu du chemin, elle a reçu sa mission il y a un peu environ 6 mois, on lui avait donné 12 mois pour sortir un rapport, donc on est au milieu du guet. Ça avance pas mal pour ce que je peux en voir de l'extérieur et dans les comptes rendus que je reçois.
Très bien. On reparle de la convention de l'Anna Kofi ainsi que l'université d'été avec cette question, David, est-ce que ça aura lieu en présentiel ou en digital ?
Alors, on n'a pas le choix. Hein. On est obligé d'annuler notre convention annuelle qui était prévue pour le 18 mars. Donc, vous voyez bien que le 18 mars, on ne pourra pas faire grand-chose. La décision a été prise d'abandonner l'idée de faire une convention présentielle et de même pas chercher à la décaler d'un mois ou deux mois. On ne sait pas quand on pourra redémarrer dans de bonnes conditions et donc faire une grande convention de 1000 ou 2000 personnes dans ces conditions-là, ou même l'envisager, ça paraissait totalement utopiste. Ce que l'on a décidé de faire, c'est de faire comme l'année dernière l'Assemblée Générale en digital, puisque on avait fait développer un outil, on va s'en servir, ça avait bien fonctionné, ça avait plu, ça nécessite pas du tout la même manière de travailler, on est obligé de travailler beaucoup plus en amont, puisqu'il n'y aura pas de débat en salle, donc il faut de la préparation et de l'échange avant, et pas mal de documents, on va le faire. Le portail ne devrait pas poser de problème. On vise de faire ça le 22 avril. Alors je dis on vise, pourquoi ? Parce qu'il y a des sujets techniques dedans. Et puis que nous, on a un ordre du jour qui sera chargé cette année. Puisqu'on n'a plus de date avec une salle bloquée, on ne veut pas se prendre à la gorge nous-mêmes. On a pré-réservé la date du 22 avec les développeurs. On verra si c'est possible. Bien entendu, du coup, on veut éviter de rester sans un grand événement dans l'année. Et on avait fait l'expérience l'année dernière avec l'université d'été qu'il y avait autre chose de possible. Donc, nous recommencerons l'expérience, mais en plus grand.
Oui. On s'en souvient avec émotion, hein, cette université d'été. Pourquoi ? Parce que déjà, bon, c'était comme d'habitude très réussi. Mais surtout, c'était un des seuls événements, finalement. Il y a eu une petite fenêtre de tir là entre la fin de l'été et puis jusqu'après les nouvelles mesures de confinement qui a permis de faire cet événement.
Ouais, oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'université d'été, pour nous, c'était la transformation en public, en version publique d'une université d'été qui existe depuis 10 ans à l'Anacofi, mais qui est juste des séances de travail interne où les équipes d'élus et de salariés travaillent pendant une semaine et point. Et on en a fait un événement public pour la première fois, en disant d'ailleurs à tous les organisateurs d'événements et médias, c'est un événement qui est un non-événement, puisqu'en fait, on va vous mettre en avant et dire ce que vous allez faire sur le reste de l'année et comment vous allez déployer pour notre écosystème. Et finalement, la fenêtre de tir s'est refermée et on a été un des seuls événements de l'année, alors même que c'était pas notre objectif, mais c'était plutôt de pousser ceux des autres.
Donc bis repetita, septembre toujours.
Oui, bis repetita, début septembre, même logique. L'idée, c'est d'essayer de pas marcher sur les plates-bandes de ceux qui essayeront de faire leur année en étant des organisateurs d'événements plus que nous ne le sommes nous par nature. On va essayer de faire en plus grand. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on visera un événement d'un millier de personnes, là où l'année dernière c'était un événement qui visait 450, qui a fait 450. On ne sait pas encore, puisque on est en train de travailler sur les salles, mais on n'a pas encore la réponse. La décision de faire ça plutôt que la convention est trop récente. Maintenant, on va essayer aussi d'avoir un événement intercalaire mi ou fin juin en région. Ce serait... on y travaille, mais là aussi, on voit bien que... Vous voyez, si on nous dit que les lois d'exception et les règles d'exception s'arrêtent début, voire mi-juin,
ça paraît
pour organiser quelque chose, ça va être compliqué.
Alors, en revanche, ce qui peut continuer, c'est le Tour de France, digital, pour le coup.
Bah oui. On avait construit... Alors, on a pris l'habitude avec l'année dernière. Hein. On a passé une année à se réorganiser tout le temps, et finalement, on a pris l'habitude de fabriquer des plans.
Et pas si mal, d'ailleurs.
Pas si mal, l'année a pas si mal fini. Elle a, économiquement, comme en nombre d'adhérents, elle a pas si mal fini.
Vous nous avez pas dit, parce que c'est vrai qu'on a manqué notre numéro de janvier, où on en est, là, l'Anacofi, nombre d'adhérents?
L'Anacofi a gagné 1% d'entreprises membres, elle a perdu 1,% de CIF, donc ça veut dire qu'elle a plutôt gagné les courtiers. Mais ce que l'on voit depuis là, le début de l'année, c'est qu'on a énormément d'entrants, mais vraiment beaucoup. Donc on avait peut-être du stock qui attendait et qui est en train de rentrer là. Donc niveau adhérent, il n'y a pas de sujet. On avait fait l'année d'avant plus 7%, donc certaines assos ont fait mieux que nous, d'autres moins bien, mais bon, voilà, on a fait une année qui est correcte, et on
vu
a
vu le contexte,
et on a surtout obtenu pas mal de retours positifs de nos adhérents. On a fait un gros travail d'accompagnement et tout modifié comme et quand on le pouvait, et au moins une demi-douzaine de fois dans l'année. C'était ça le sujet, c'est d'apprendre à faire des plans A et des plans B, du coup. Économiquement, pour l'Anacofi, on a bien sûr la société qui s'occupe de nos événements qui, elle, va mal, et les associations qui, elles, vont bien. Donc, au total, ça fait une année qui n'est pas si mauvaise que ça.
Et pour les adhérents, justement, vous êtes en première ligne, justement, avec tous ces abonnés, ils vous parlent quand même au quotidien. Ils souffrent, c'est compliqué en ce moment.
Oui, bah, y a pas un métier, je pense, hein, en France qui souffre pas, à la part peut-être certains distributeurs de produits alimentaires, et encore, pour ce qu'on entend, parce que ça bouge, donc un coup ça va, un coup ça va pas. On a le sentiment que c'est exactement ce qu'on avait dit lors de notre université d'été. Si vous vous souvenez bien, on avait fait une étude, on continue à creuser. Mmh. La nouvelle étude est en préparation, donc j'ai pas de données, parce qu'on est, on juge pas pertinent de faire actuellement un sondage à l'intérieur des fiches qui sont en train d'arriver. Ça pourrait nous, à chaque fois qu'on a fait ça, on a eu un résultat qui n'était pas du tout le résultat final. Donc on va attendre d'avoir le résultat final de l'enquête en cours. Ce que l'on peut dire, c'est que ils ont fait une année qui, pour la moitié d'entre eux, est une année qui n'est pas mauvaise si on parle économiquement. Il y a une donnée qu'on néglige, hein, c'est le psychologique. C'est ne pas voir ses clients, ne même pas voir ses salariés pour les cabinets un peu plus grands, et pour les tout petits, ne pas se retrouver dans des réunions entre eux, c'est quelque chose qui pèse. Et nous, on le voit, ne serait-ce que dans les questions, les échanges avec eux. On voit que beaucoup viennent parler avec les salariés et avec l'équipe, celles qu'on appelle les mamans de nos membres. Ils sont que des femmes, hein, mais on voit bien qu'il y a plus de demandes d'échanges de la part de certains. Il y a des gens qui sont isolés. Ceci dit, si on parle économiquement, la moitié de nos membres n'ont pas eu de difficultés avec l'année dernière. L'autre moitié, on a eu des degrés divers, ça change pas trop nos conclusions. Et ceux qui sont en fragilité, on le voit avec les désinscriptions, semblent être à peu près en droite ligne avec ce que l'on s'était dit en septembre-octobre. Par contre, ce qui est un petit peu nouveau par rapport à ce moment-là, c'est qu'on comprend bien l'effet de cette difficulté à générer de nouveaux prospects et donc de nouveaux clients. L'année dernière a été une année de ce côté-là extrêmement compliquée. Donc si on peut tenir un an comme ça, en tenir deux, ça va être dur. Ça aura forcément des effets sur les chiffres d'affaires cette fois-ci, y compris de ceux qui n'avaient pas de problème, ou ça aggravera la situation pour ceux qui en avaient un peu. Et donc voilà, il est temps que ça revienne à la normale, ou alors, et c'est notre boulot de fédération professionnelle ou d'association pro de travailler là-dessus avec nos membres et pour eux, ou alors ça veut dire qu'il faudra des changements plutôt à la marge que structurellement, mais quand même des changements, quant au modèle, au moins sur cette partie générée du client. On travaille aussi sur ce sujet-là parce qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, après un an, un truc qu'on pensait ne durer que 6 mois, ça dure un an, on sait que ça en reprend encore pour 6 mois. On ne peut pas éviter d'imaginer, encore une fois, des plans A, des plans B, voire des plans C, ce qu'on fait depuis 12 mois, un peu plus même d'ailleurs, maintenant. On y travaille. Et pour notre Tour de France, bah, c'est exactement ce qu'on fait pour revenir à la question de départ. C'est on a bâti un système qui prévoyait un Tour de France présentiel avec un peu de digital. Plus de digital sur le début de l'année parce qu'on a tout de suite compris qu'il y aurait une difficulté. Et puis bah, aujourd'hui, les 100% digital jusqu'à juin, et on avisera à ce moment-là. On ne loupera pas une occasion de pouvoir redémarrer un peu de présentiel, mais il est digital. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des visios régionales. Donc on organise des visios régionales animées par les responsables et les représentants régionaux, de façon à ce que ce lien avec des gens qu'on a mis en place dans une quarantaine de villes soit là, qui puisse continuer à exister, que les gens puissent poser leurs questions, écouter ce qu'on a aussi à dire. On a des espèces de formations gratuites en demi-journée dispensées par des partenaires. C'est l'équivalent de ce qu'on appelait les journées partenaires en présentiel, qui redémarreront après. Et puis, on s'essaye à proposer aussi de la formation en classe virtuelle, puisqu'on proposait du e-learning classique, on propose de la formation courte, on propose du MOOC, on propose plein de choses. Mais on essaye un nouveau format qui nous avait été demandé par nos membres, qui est de la classe virtuelle. Alors, avec quand même un constat, hein, c'est que la classe virtuelle a été énormément demandée. Elle est maintenant en ligne depuis un moment. Il y a extrêmement peu d'inscriptions. Donc, quand on parle de digital aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est beaucoup de gens disent beaucoup de choses, mais au final, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Oui. Je vous en donne juste un. C'est une des formations qui est très demandée en présentiel. On a mis en place une classe virtuelle. On l'a mis qu'une seule fois, donc on aurait dû avoir une ruée dessus. Elle aurait dû être demain et elle n'aura pas lieu parce qu'il y avait zéro inscrit.
Ah bon, okay.
Alors qu'on avait des demandes, on avait des gens qui nous disaient « Pourquoi vous ne faites pas ça ?» Des administrateurs, mais comme des membres qui envoyaient des messages, zéro. Voilà. Donc, l'avantage du digital, c'est que ce n'est pas très compliqué à mettre en place puisqu'on a acheté tous les outils, donc on peut le faire. Et puis, si on annule, on annule. Mais là, quand même, un score à zéro dit quelque chose. En tout cas, à l'Anacofi, on propose...
Il y a aussi peut-être un effet lassitude, hein, David, de...
Oui.
de voilà, on a passé quoi, des heures et des heures devant son ordinateur.
Oui, bien sûr.
C'est peut-être un peu sur le métier, que ce soit avec ses clients en formation, bien évidemment. Et là, on a, alors peut-être qu'on n'aimait pas tellement avant, on a envie quand même de se retrouver en présentiel. Pourquoi pas avec le prof? Pourquoi pas avec les copains? Ou pourquoi pas avec
c'est clair que on voit bien que ce genre de format, même s'ils étaient demandés, sont des formats qui plaisent pas, alors que d'autres fonctionnent. Ouais. Et beaucoup de nos membres qui nous disaient au départ, ouais, bon, le e-learning, c'est bien gentil. Bon, je le fais parce que c'est pratique, mais je vais pas faire toutes mes formations. Ouais. Aujourd'hui, ils nous disent l'inverse. C'est bon. C'est pratique, c'est rapide. Je ne suis pas bloqué pendant toute une journée dans une salle. Bon, est-ce que vous pourriez améliorer les visuels? Oui, on les a mis. Du coup, on le fait en continu. On essaye de passer des caps et on va livrer une nouvelle version aussi de cet outil dans quelques temps. Mais finalement, on voit que des gens qui commençaient à devenir réticents à ce truc-là choisissent ça. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le plus simple. Mmh. Et au bout du compte, c'est vrai qu'on en a marre d'être derrière des écrans. On en a marre de voir personne. Mais tant qu'à le faire, autant aller à la solution la plus simple.
Mmh. Voilà. Et donc, que ce soit propre, évidemment.
Donc, notre Tour de France. Objectif, si possible, courant juin, redémarrer une dose de présentiel.
Bon, eh bien, on suivra ça, bien évidemment. Tiens, on reste dans le digital et dans l'Internet avec un nouveau CRM suivi des sites Internet de la NACOFI.
Oui, on a essayé un lancement qui n'a pas fonctionné. Donc, on a un projet digital qui devait s'étaler sur 18 mois. Hein. C'est l'habitude à la NACOFI. Tous les 4 ans, on réforme tout notre système. Et vous avez vu qu'on a réussi à fonctionner en full digital dès la première semaine de la crise. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait un plan digital. Donc, on avait intégralement digitalisé, mais avec des outils que certains, après 4 ans de fonctionnement, voulaient voir réformer. Donc, on a fait cet effort. Tous les travaux préparatoires ont été faits. Les développements ont été faits. On a tenté un lancement de ce nouvel outil dans le courant du mois de décembre, qui n'a pas été un grand succès. Hein. Les serveurs ont juste cru mourir pendant 10 minutes et puis après, plus rien ne fonctionnait. Donc on est revenu sur l'ancien système et on va mettre en place tout ce nouvel outil CRM extranet pour nos membres intranet dans les semaines à venir. Donc là, on espère qu'il a été correctement corrigé par ceux qui le développent. Et puis, quand ce sera fait, on attaquera l'habillage. Et donc, l'habillage, ce seront les sites Internet où, d'ici la fin de l'année, on va pas avoir des objectifs qui ne sont pas tenables parce que tout ce qui se développe prend toujours des mois de retard. Donc, on aura certainement des sites dans le courant du mois d'octobre-novembre qui auront été relookés, repensés et qui seront d'ailleurs en compatibilité avec ces nouveaux outils Internet, intranet et intranet et extranet, je vais y arriver, pardon, qui eux-mêmes auront été repensés pour des sites ultérieurs, en fait. On va faire fonctionner pendant un temps avec les sites d'aujourd'hui, mais ils sont plutôt pensés pour le futur.
Parfait. Et on termine ces actus de la NACOFI avec le courtage, évidemment.
Oui, alors là, on va parler, puisque là, ce n'est pas un sujet réforme du courtage. Pour l'instant, commençons par notre réorganisation interne. L'année dernière, nos membres ont vu en Assemblée Générale qu'on avait pris la décision d'essayer de créer une entité plus grosse que ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire Anacofi Job et Anacofi Assurance, pour former une Anacofi Courtage qui regroupe ces deux familles, avec bien sûr leurs spécialités respectées, dans une Anacofi Courtage. Donc là, on est en train de travailler à la mise en place de l'Anacofi Courtage dans les mois à venir. Que cela soit pour être efficace dans le cadre de la réforme du courtage, ou que cela soit tout simplement pour simplifier le fonctionnement de nos entités, puisqu'il ne nous semble plus évident que nous ayons besoin de deux entités différentes. Ça fait deux administratifs, deux comptas, deux CRM. Enfin, ça a l'air de rien, mais ça crée une certaine lourdeur pour nos membres. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire plus simple. Les avocats nous disent « ça pose pas de problème juridique ». Ok, bon. Alors, on était parti là-dedans il y a un an. Là, on arrive un peu au bout du chemin et on est en train de préparer le projet final pour que tous les votes soient faits et qu'on enchaîne ça. Et derrière, donc, qu'on puisse, si la réforme du courtage va au bout, déposer le dossier d'agrément à la CPR.
Parfait pour ces informations, ce tour de l'info. Anacofi, tout de suite, l'actu métier.
Club Anacofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine, sur Radio Patrimoine.
L'actu métier, et ça va faire le lien tout de suite avec ce qu'on disait à l'instant sur la NACOFI courtage, où on est justement cette réforme du courtage, David.
La réforme du courtage, elle semble avancer. Alors, on sait tous qu'un certain nombre d'acteurs n'y sont pas favorables et essayeront de la faire capoter autant qu'ils le pourront. Nous, on est assez tranquille et détendu là-dessus, on le répète, hein, ça fait 20 ans bientôt qu'on dit que le système de co-régulation qui avait été imaginé pour les CIF, enfin 15 ans au moins, est un bon schéma. Là, c'est pas exactement le même, mais il nous va, on peut pas. On est dans le même type de mécanique, donc tout va bien. Mais en même temps, on n'a pas été les demandeurs qui ont été le déclencheur. Donc ça va au bout, c'est top, et on est totalement favorable à ça, et on en sera. Ça va pas au bout, on est détendu. Mais pour le coup, je pense que là, c'est quand même plutôt bien parti. L'Assemblée nationale a voté, le Sénat a voté, ça revient à l'Assemblée nationale. Les amendements qui sont proposés dedans devraient être discutés entre sénateurs et membres de l'Assemblée nationale. Bon, on en est là. Donc on a déjà un texte. Le texte que nous connaissons, amendé ou pas amendé, ben, il nous paraît utilisable et applicable. Est-ce qu'il y aura des actions derrière d'autres pour essayer de le shooter? On verra bien. Nous, on se prépare. Il s'agit vraiment d'un texte dans lequel on dit des associations vont accompagner. Encore une fois, je le répète, on n'est pas dans la mécanique du CIF. Toute la dimension policière est retirée. Et le texte tel que nous le connaissons à cette heure, mais qui a donc fait deux passages dans une des chambres du Parlement, le redit, voire a été précisé pour que ce soit encore plus clair. Bon, voilà. On en est là. On en est donc vraiment pas loin, puisqu'on nous annonce la date du 18 mars pour un vote final. Donc, franchement, ça approche. On a des échanges avec la CPR, avec les parlementaires, avec le Trésor. Alors, des échanges qui sont calmes. On avait dit, nous, pendant un moment... On laisse faire, c'est entre leurs mains. Bon, là, on recommence quand même à prendre langue, parce que nous-mêmes, si on doit déployer une association, on les a, mais il faut quand même qu'on fasse quelques petits arrangements, quelques petites adaptations, et qu'on sache ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, on a rebranché les tuyaux, on recommence à échanger avec les trois grandes parties prenantes de cette réforme.
Autre sujet, l'AMF avec la certification, projet de place en cours.
Oui, alors elle vient de communiquer là-dessus. Elle vient d'expliquer qu'en plus de sa certification que tout le monde connaît, qui vous permet d'exercer, elle rajoutait une certification ISR. On avait répondu à la consultation là-dessus. L'AMF fait ce qu'elle avait prévu et ce qu'elle avait annoncé. On parlait tout à l'heure de ESG. Bah voilà, on est dedans. On voit bien que même le régulateur vient faire quelque chose pour essayer de poser des règles de base de compétences. Alors, elles sont très, c'est très français, c'est très ISR, c'est facultatif, c'est tout un tas de choses. Nous, on rebranche ça sur l'autre sujet qu'on porte en termes de certification de compétences qui s'appelle IAS. Hein. Je vous rappelle qu'on a accepté de piloter un projet de mise en place d'une association française à l'intérieur d'une grande organisation internationale de certification de compétences. Ça s'appelle IAS. On essaye de monter IAS France, et IAS France, bien sûr, s'occupera aussi de couvrir la partie certification AMF. Enfin, à n'en pas douter, puisque j'en serai pas le président, l'ANA COFI n'en sera pas la présidente, puisque nous avons juste dit que nous travaillons à sa mise en place, mais ensuite, ce sera une organisation de place, et ne serait-ce que pour marquer ça, on ne souhaitera pas la présider. Mais en tout cas, en logique, et tel que le projet le prévoit, elle couvrira et elle s'occupera de cette certification AMF aussi, probablement comme d'autres par contre. Hein. Mais il faudra que cette certification internationale, dans sa dimension française, couvre aussi la spécificité française, et puisque l'AMF vient juste de sortir ça. Ça paraît être une obligation que de le faire.
Parfait. On parle du label Relance.
Oui, alors, label Relance, il y a eu pas mal de communication là-dessus du ministère quand c'est sorti, ça en fin d'année dernière. Et puis alors, on n'en parlait plus beaucoup. Alors, on a vu maintenant les Échos et quelques autres journaux commencer à se faire des sorties là-dessus, le Figaro.
Alors, trop marketing, je cite un confrère des Échos, le label Relance risque de rater sa cible, puisque, on rappelle, hein, les sociétés de gestion peuvent s'auto-attribuer le label Relance. Est-ce qu'il s'est un peu critiqué? Est-ce que vraiment on est dans la cible?
Oui, alors, je pense que tous les labels sont marketing, donc ça me tient un genre de remarque que je comprends, parce qu'elle n'est pas fausse en soi, hein, mais citez-moi un label qui n'est pas du marketing, et j'en connais pas. Donc oui, bien sûr, c'est marketing. Est-ce que c'est trop marketing? L'idée, c'est d'essayer de flécher, sans donner de l'argent de l'État aux gens, des investissements pour qu'ils aillent soutenir l'économie française.
Ouais, puisque le fonds labellisé Relance, on le répète, hein, s'engage à investir au moins 30% de leurs actifs dans le bilan d'entreprises tricolores, cotées ou non cotées, dont au moins 10% de PME et ETI.
C'est même un peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a plusieurs options. Donc ça peut même monter jusqu'à 60. Donc il y a un moment où, si vous voulez dire aux gens, à fond égal, bah, celui-ci soutient la France, on en est sûr, l'autre peut-être qu'il le fait, mais on n'en est pas sûr, voire on sait qu'il ne le fait pas, bah, il fallait bien mettre un marqueur. Donc ce marqueur, c'est ce label. Est-ce que c'est du marketing ? Oui, mais toute com de cette nature est du marketing. Donc je ne suis pas choqué avec ça. Ensuite, sur le deuxième élément des échos, qui est de dire c'est de l'auto. Alors ce n'est pas exactement de l'auto. C'est eux, ils vont dire, mais c'est comme tous les dépôts de dossiers, hein. Ils vont indiquer qu'ils respectent les critères et derrière, il y a à Bercy une équipe. Et si elle a des questions, elle peut se retourner vers un comité d'experts qui regroupe des gens de 15 organisations, les ministères étant comptés dedans, et dont est l'ANACOFI et une autre des fédérations de CGP. Donc on est 15 qui pourraient être interrogés. Est-ce qu'il fallait aller plus loin et mettre un comité d'analyse plus serré ? Possible. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on avait, c'est la question qu'on avait posée à Bercy dans les questions préparatoires de cette certification ou labellisation. Bon, le choix a été fait de le faire comme Bercy l'a choisi au final, c'est-à-dire de dire que les gens vont déclarer et que ce sera une analyse assez simple. Il fallait aller assez vite. Hein. Il faut bien comprendre que c'est pour faire de la relance. Et la relance, c'est pas dans 4 ans, hein, c'est maintenant. Voilà.
Donc
voilà,
on salue, vous-même, vous saluez quand même cette initiative.
Bah, non seulement c'est on la salue, mais alors on est signataire de la charte et on s'est engagé à soutenir l'initiative. Donc c'est déjà difficile de dire qu'on n'est pas pour. Il y avait un problème, par contre. Il y avait une fragilité, mais qui est une fragilité à la naissance dont on se débarrasse avec le temps, qui est qu'au début, il y avait trop peu de fonds labellisés. Ce qui signifie qu'on avait une offre très étroite, beaucoup trop étroite. Aucun CGP n'allait se pencher là-dessus quand il y avait 50 fonds dont les deux tiers étaient réservés à des clients professionnels. Aujourd'hui, on a dépassé les 130 et on se dirige vers les 200. Quand on va arriver à 150, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura en retail à peu près autant de fonds qu'on les a dans un certain nombre de contrats multisupports. À partir de ce moment-là, on a une fenêtre de tir avec un intérêt des clients qui va monter, une communication qui va monter et des CGP qui eux-mêmes auront un choix plus large. C'est quand ? Bah, c'est tout de suite parce qu'on est à peu près en train d'arriver à ça vu le nombre de labellisations qui tombent par semaine. Et on a une réunion la semaine prochaine du comité de pilotage, donc on en saura plus la semaine prochaine, mais voilà comment ça se décide.
Ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve cette large gamme un peu partout, hein, dans les grands groupes, Amundi, Natixis, AXA, on a 5, 2, et puis parmi les boutiques indépendantes, Financière L'Échiquier, IDAM, Raymond James, Moneta, Mescart, etc., etc. La liste, on la trouve en tapant tout simplement fonds.
Mais oui, ils ont créé un portail dédié à ça, comme pour Pacte. C'est très bien fait. C'est une équipe gouvernementale qui, là-dessus, est pas mauvaise en termes de com.
Ah bah, ça mérite d'être souligné, tant mieux.
Ah bah, sur nos sujets, clairement, ils font quelque chose qui avait jamais été fait avant.
Autre sujet, David, on reparle de la réforme du crowdfunding. Où en est-on ?
Nouveau texte. Entrée en application là, avec une période transitoire sur quelques années, hein, enfin pas beaucoup, deux.
Donc, les grandes lignes, c'est quoi ?
Bah, les grandes lignes, c'est que maintenant, on a un statut pan-européen de plateforme, alors que la France était très en avance avec son système de plateforme de financement participatif, avec la Marianne, enfin je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez tous ça. On avait un sujet qui était la concurrence à travers l'Europe. Il y avait des pays qui n'avaient rien fait, d'autres qui avaient fait des choses très lourdes. Voilà, on a un statut pan-européen. Il est un statut fondé plus sur la réception transmission d'ordre que le nôtre, qui disait qu'il n'en était pas, mais qui par contre va interdire le conseil. Alors évidemment, du coup, ça signifie que le conseil, c'est pour nos métiers, c'est pour nous. Donc il faut qu'on trouve un nouvel accord. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, on avait sorti un contrat de place entre la Fédération des crowdfunders et l'ANACOFI pour pouvoir donner des guidelines sur quand on travaillait entre un CGP ou un CIF côté entreprise, parce que ceux-là aussi sont intéressés. Ils peuvent amener des entreprises au financement. Et puis ces plateformes. Ce contrat est donc à réformer. Donc on va recommencer le travail dans les semaines à venir. Je ne vais pas dire les jours parce que j'y crois pas, mais dans les semaines à venir, on va remettre ce document sur la table entre FPF et l'ANACOFI. Et on va retravailler un nouveau contrat pour s'adapter à ces nouvelles plateformes qui ont quand même une de vraies différences réglementaires donc la typologie des accords et le besoin pour un consommateur d'ailleurs d'utiliser et la plateforme et un CGP, à mon sens, sera accru. Ce binôme va devenir encore plus important. Donc il faut qu'on arrive à s'organiser là-dessus. Voilà, c'est parti, c'est acté. Il y a bien une phase transitoire, mais à partir de maintenant, on pourrait très bien avoir des plateformes qui seraient agréées sous le statut paneuropéen.
Bon, c'est noté. Enfin, on en a un petit peu évoqué en première partie. On reparle des effets Covid. Où en est-on ? Quels sont les effets sur les métiers des conseillers en gestion de patrimoine ?
Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure. Hein. On a un peu dit, il y a quand même une problématique pour générer des clients qui est réelle. Il y a une deuxième problématique pour certains qui est psychique, morale. Là, on a du coup une certaine, comment dire, un rythme qui s'est trouvé, qui n'est pas un rythme normal. En plus, on commence sur cette année avec une année où certains avaient pensé qu'au 31 décembre, tout s'arrêtait, on était dans une année normale. Pas du tout. On est tous dans la même situation qu'à la fin, c'est-à-dire que là où on pensait que ça démarrerait, c'est qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. Voilà. Et encore, si vous êtes à Nice aujourd'hui, je pense que vous vous demandez comment ça va tourner, comment vous allez gérer si on ferme tout pendant plusieurs semaines. Bon. Donc, le Covid a des impacts nombreux. Et ce que l'on entend aussi, c'est qu'il y a plus de difficultés à faire du business là, à gérer du client, de la part de certains adhérents qui disaient ne pas en avoir l'année prochaine et qui sont des gros faiseurs, alors qu'ils avaient réussi quand même à faire une bonne année. Et ils sont assez surpris de ça, parce qu'ils pensaient avoir trouvé le schéma. Et ils nous disent qu'ils ont des clients qui sont plus attentistes, encore plus attentistes qu'en 2020. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront rien dans l'année. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème pour l'entreprise CGP aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on commence l'année dans des conditions comme ça, avec des gens qui sont attentistes. Et donc des CGP qui sont l'arme au pied, qui essayent de bosser, mais qui doivent aller vraiment à la castagne pour sortir leurs chiffres, tout en étant eux-mêmes un peu attentistes. Parce que, qu'est-ce qui se passe après? Quand est-ce qu'on me débloque? Donc, du coup, ça nous oblige, nous, à Anacofi, mais toutes les associations, je pense, hein, à maintenir un schéma de fonctionnement qu'on ne peut plus dire dégradé, qui est un schéma de fonctionnement adapté. Dégradé, c'était le début de crise. Aujourd'hui, il n'est plus dégradé après un an. Hein, il est adapté. C'est autre chose. Bon. Ça oblige l'écosystème à continuer à travailler sur des règles d'accompagnement. On le voit bien avec toutes les aides qu'il y a. On voit bien aussi avec le projet, on parlait juste avant du label relance. Il est lié au Covid. Au départ, il n'y avait pas ce label relance. Il y avait le pacte, il y avait le projet pacte, il y avait les PER, il y avait la réforme de l'assurance vie. Et c'était ça qui devait être le marqueur de l'injection nouvelle de capitaux dans les entreprises en France, avec ce gouvernement-là et ce qu'il avait eu envie de faire. Donc on voit bien que ça implique tout un tas de choses. Et on verra ensuite ce qui se passera sur la loi de finances rectificative, parce qu'à un moment, quand on va débrancher, on va aussi faire les comptes.
C'est là où on va voir où ça risque de se compliquer, d'ailleurs.
C'est là où ça risque de se compliquer. C'est là où, par contre, peut-être nos métiers vont avoir vraiment leur carte à jouer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça devrait correspondre au moment où on pourra bosser comme on veut. Et on espère qu'on sera en capacité de pouvoir amener notre accompagnement à ces personnes, à ces clients, particuliers ou entreprises, qui forcément, dans une situation de crise, recherchent l'aide de leurs conseillers. Ceux qui ne le recherchent pas, ils ne sont pas chez nous, ce n'est pas nos clients, mais certains vont avoir besoin de conseils et viendront vers nous, ça, à n'en pas douter. À ce moment-là, il faudra qu'on soit prêt. On essaye donc aussi de travailler sur de nouveaux outils. Et on voit d'ailleurs des réorganisations. On parle beaucoup des réorganisations de groupes de CGP. C'est vrai que pour les gros et pour quelques moyens régionaux, mais c'est vrai, on en voit les effets à l'Anacofi, un peu. Il faut aussi parler de ceux qui fabriquent les outils et donc qui essayent de s'adapter. Vous voyez pas mal de structures d'échange entre CGP. Enfin, Covid a changé ça aussi, a changé aussi la nature des outils, la typologie des entreprises qui nous proposent des choses. Moi, la concentration, je la vois pas mal là-dedans et je vois des tout nouveaux acteurs arriver avec des idées assez sympas qu'on pourra garder derrière pour échanger avec nos clients.
Eh bien voilà, adapter hein, plutôt que dégrader, effectivement, c'est le monde en 2021 dans le joyeux monde de conseil en gestion de patrimoine. Merci pour ce panorama assez complet, on vous l'avait promis. Merci David Charlet, président de l'Anacofi. À très bientôt pour un nouveau Club Anacofi.
À bientôt.
Club Anacofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine.